Léa Salamé, votre invitée ce matin est tête de liste du Rassemblement National aux élections européennes 2019.
Bonjour à vous Jordan Bardella.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous
avec
ce matin.
Plaisir.
Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez 23 ans, vous avez adhéré au Front National à l'âge de 16 ans et vous avez été bombardé donc par Marine Le Pen, tête de liste aux européennes il y a quelques jours. Merci d'être là. On va commencer avec les tensions entre Rome et Paris. L'ambassadrice d'Italie en France a été convoquée hier après les déclarations de Luigi Di Maio, le vice-président du Conseil italien, accuse la France d'être responsable de l'aggravation de la crise migratoire parce que, je cite, « la France a colonisé l'Afrique et aujourd'hui la France appauvrit l'Afrique ». Propos inacceptables et sans objet, répond-on à Paris. La France a-t-elle eu raison de convoquer l'ambassadrice italienne?
Le problème, si vous voulez, c'est que depuis l'arrivée au pouvoir de ce gouvernement en Italie, qui est composé de forces qui incarnent aujourd'hui l'expression populaire, le mouvement 5 étoiles et la Ligue, Monsieur Macron s'est comporté en insulteur public numéro 1. Il a eu tout un tas de petites phrases, tout un tas de petits mots assez déplacés à l'égard du gouvernement italien.
Alors que Salvini n'a jamais insulté ni Macron ni la France.
Je crois que, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui Emmanuel Macron incarne une voix qui est relativement isolée sur la scène européenne, et que Monsieur Salvini incarne en l'occurrence en Europe un courant d'avenir. Donc je veux dire, voilà, maintenant qu'il y ait des tensions, je crois qu'elles viennent en grande partie de la responsabilité de Monsieur Macron, qui a fait un petit peu monter les tensions depuis l'arrivée au pouvoir de Matteo Salvini et de Monsieur Di Maio, qui, n'en déplaise à Monsieur Macron, incarne aujourd'hui une grande partie des aspirations démocratiques du peuple italien. Maintenant, sur la crise migratoire, moi je crois que ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous avons vécu effectivement, notamment dès 2015, ce grand flux migratoire en provenance de l'Afrique, vient effectivement, on ne peut pas le nier, des politiques étrangères qui ont été menées par la France, et notamment de la déstabilisation de la Libye, de la déstabilisation de la Syrie, et qu'on a effectivement joué, notamment par Nicolas Sarkozy et François Hollande, que nous avions d'ailleurs condamné à l'époque, les pompiers pyromanes aujourd'hui en allant faire de l'ingérence dans ces pays et en allant déstabiliser ces pays.
Pardon, c'est pas ce que dit
nous,
du tout Luigi Di Maio.
Ce que
dit Luigi Di Maio, juste pour savoir si vous êtes d'accord avec ce qu'il dit. Il dit si aujourd'hui il y a des gens qui partent, c'est parce que certains pays européens, la France en tête, n'ont jamais cessé de coloniser l'Afrique. Si la France n'avait pas les colonies, elle serait la 15e puissance économique mondiale. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Non, moi je crois que des personnes partent des pays africains, c'est parce que ils ont encore l'image d'un continent européen riche, continent européen Eldorado, qui peut accueillir aujourd'hui une grande partie de la misère du monde. Or, ce n'est plus le cas.
Donc, c'est pas à cause de nos colonies.
Non, je crois
clair.
Pas. Moi, je crois que je suis partisan, si vous voulez, d'un développement des coopérations avec l'Afrique, dans le respect de la souveraineté de ces États, et en sortant de l'ingérence que nous avons depuis un certain nombre d'années, encore une fois, en matière de politique étrangère et géopolitique, avec les pompiers pyromanes qu'ont été François Hollande et Nicolas Sarkozy en Afrique.
Alors, vous allez porter les couleurs du Rassemblement National, donc, pour ces européennes. Soyons clairs dans ce que vous allez défendre. Le Frexit. C'est fini, la sortie de l'euro, c'est fini, c'est bien ça, j'ai bien compris ce que vous dites, ce que dit Marine Le Pen.
Il n'a jamais été question d'un Frexit, c'est-à-dire que pendant longtemps on a défendu la solution à l'anglaise, c'est-à-dire plusieurs mois de négociations pour retrouver notre souveraineté, c'est-à-dire nos pouvoirs de décision en matière migratoire, en matière économique, en matière budgétaire, en matière législative, et si au bout de ces 6 mois nous n'avions pas récupéré nos souverainetés, nous proposions ce qu'avait fait Cameron en Angleterre, c'est-à-dire la sortie, le référendum pour sortir de l'Union Européenne. La réalité c'est que le contexte européen a énormément évolué et que nous défendions, si vous voulez, cette espèce de big bang vis-à-vis des institutions dans une période où nous étions relativement isolés sur la scène européenne, sur ce créneau souverainiste. La réalité, c'est que l'Europe a beaucoup évolué et qu'arrivent au pouvoir partout en Europe des partis politiques qui veulent rendre le pouvoir au peuple. Voilà, on citait Matteo Salvini en Italie, on peut citer le FPO en Autriche. Et je pense que s'il s'agit demain, par exemple, sur la question de l'immigration, de régler cette question avec Monsieur Salvini, eh ben, croyez-moi, je pense qu'on peut trouver un certain nombre de points d'accord. L'idée, c'est aujourd'hui de transformer cette Union européenne en une grande Europe des nations, où chaque pays peut aujourd'hui décider de ce qui est bon pour son peuple. Voilà, peut décider de ses accords économiques, peut décider de son budget, peut décider de ses lois et peut décider encore une fois de sa politique migratoire.
La sortie de l'euro, c'était une erreur.
Je crois pas que c'était une erreur.
Vous l'avez dit il y a quelques jours.
Je crois pas que c'était une erreur. Je crois que, si vous voulez, on avait cette volonté d'un retour assez franc à la souveraineté monétaire, notamment dans une période où nous étions isolés sur la scène européenne. Je crois que sur l'euro s'est beaucoup déprécié ces dernières années. Il faut l'admettre. Je crois qu'il faut faire évoluer la gouvernance de la zone euro, notamment, peut-être remettre en cause l'indépendance de la Banque centrale. Et demain, par exemple, la Banque centrale qui aujourd'hui mène une lutte exclusive contre l'inflation pourrait, par exemple, avoir la volonté de lutter contre le chômage ou de prêter directement aux États membres. Donc je veux dire, ça on en discutera dans un dernier temps, mais je crois qu'aujourd'hui il y a d'autres priorités dans notre pays, notamment la maîtrise de nos frontières, notamment la baisse des impôts pour ceux qui bossent, pour ceux qui travaillent. Et encore une fois, c'est des décisions qu'on peut prendre dans un contexte national.
Mais pour être bien clair, la sortie de l'euro, c'est fini. Vous ne la redéfendrez
c'est
pas
plus
ni
une priorité.
Aujourd'hui.
Non, c'est plus une priorité. Voilà, je veux dire, je suis très clair là-dessus. Ce n'est plus une priorité. Je crois qu'il y a encore une fois d'autres priorités sur la maîtrise de nos accords économiques, sur la lutte contre le libre-échange qui menace notre industrie, notre agriculture, sur la baisse des impôts dans notre pays parce que, encore une fois, la France est un des pays dans lequel on paie le plus d'impôts et nos compatriotes n'en peuvent plus. Donc voilà, il y a des priorités aujourd'hui. Vis-à-vis de l'Union européenne, je crois qu'il y a la priorité qui est de maîtriser nos frontières, que ce soit en matière migratoire mais aussi aux frontières économiques. Les Français doivent récupérer les clés de la maison France.
Je comprends, voilà. Mais Marine Le Pen avait estimé pendant la campagne présidentielle que 70% de son projet ne pourrait pas être mis en œuvre si on ne sortait pas de l'euro. Alors vous faites
quoi ? Si on ne sortait pas de l'Union européenne.
De l'euro. Vous avez
de
dit, vous changez 70% du programme. Mais vous restez dans l'Union européenne. Donc vous changez 70% du programme,
non,
vous gardez les 30%,
vous faites
comment ?
Je vous l'ai dit, il ne faut pas être idéologique, il faut être pragmatique. Voilà, moi, il faut être pragmatique, il faut entendre ce que nous disent les gens aujourd'hui. Je crois que cette sortie de l'euro a posé des inquiétudes. Et il faut entendre aujourd'hui ce qu'attendent les Français, il faut entendre ce que veulent nos compatriotes. Et encore une
fois, on était,
si vous voulez, sur un débat sur la sortie de l'Union européenne dans une période où on était isolé. Or, aujourd'hui, le courant d'idées qu'on incarne sur la maîtrise de nos frontières, sur le retour à la souveraineté nationale, arrive au pouvoir dans un certain nombre de pays en Europe. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ce sont Mme Merkel et M. Macron qui sont totalement isolés sur la scène européenne. Pardon, mais M. Salvini, aujourd'hui, il est soutenu par une grande majorité des Italiens. Et il a réussi, je crois, à redonner confiance dans son peuple par une politique de bon sens. Et c'est ce qu'on veut faire demain en France.
Merci de me faire la transition. Elle est toute trouvée. Emmanuel Macron et Angela Merkel signent donc aujourd'hui à Aix-la-Chapelle un nouveau traité pour renforcer la relation franco-allemande. C'est donc aujourd'hui, à en croire Marine Le Pen, qu'Emmanuel Macron va vendre à la découpe notre pays à l'Allemagne. Pouvez-vous nous expliquer ?
Je crois déjà qu'on assiste à la volonté pour deux leaders européens qui sont aujourd'hui totalement isolés sur la scène européenne de se relancer. Alors moi, ce traité, si vous voulez, dans une période où les Français veulent récupérer le pouvoir, je me pose déjà la question de l'intérêt de continuer de transférer de pouvoir de décision dans des textes supranationaux. Moi, j'ai été regarder, il y a deux articles qui m'inquiètent quand même. Déjà l'article 5 qui nous explique que demain, la France pourrait échanger des représentants à l'ONU ou à l'OTAN avec l'Allemagne, premièrement. Et deuxièmement, l'article 8 qui nous dit, c'est une déclaration de principe sur le fait que demain, l'Allemagne pourrait siéger au Conseil de sécurité de l'ONU. Et si vous voulez, j'ai encore en tête les déclarations du vice-chancelier allemand qui nous expliquait fin novembre que la France pourrait demain, c'est un souhait de l'Allemagne, se retirer de son siège au Conseil de sécurité de l'ONU pour être remplacée par une place unique de l'Union européenne. Donc je veux dire, voilà, moi je me pose les questions aujourd'hui de l'intérêt de ce traité. Pourquoi est-ce qu'on souhaite aujourd'hui continuer de transférer des pans entiers de notre souveraineté ? Voilà, moi, converger économiquement avec un pays comme l'Allemagne, si vous voulez, qui met en place les jobs à 1 euro de l'heure, ça me pose un problème. Voilà,
sur
l'armement, par exemple, avec l'Allemagne qui refuse d'exporter des armes à l'extérieur de l'OTAN, ça pose des questions d'indépendance,
pardon,
encore une fois.
Vous, soyez précis, vous avez écouté Marine Le Pen, puisqu'elle a tweeté sa déclaration. Elle s'interroge aussi sur l'article 8, comme vous. Elle estime qu'on va organiser le partage de notre siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avec l'Allemagne. Voilà ce qu'elle dit, c'est faux. C'est pas ce que prévoit le traité, c'est faux.
Mais
vous le dites ?
Mais ça, c'est votre avis, encore une fois. On a le droit d'avoir
un avis. C'est pas mon avis, c'est écrit noir sur blanc.
On a le droit d'avoir un avis.
En aucun cas, on partagera notre siège permanent. On va pousser pour que l'Allemagne en ait un, mais en aucun cas, on partage le nôtre.
Est-ce qu'on a le droit de s'interroger aujourd'hui ? Si vous voulez, quand on entend l'Allemagne, depuis un certain nombre d'années, réclamer aujourd'hui cette place au Conseil de sécurité de l'ONU, réclamer que la France partage son siège avec l'Union européenne en tant que voix unique au Conseil de sécurité, on a le droit de s'interroger. On a le droit d'avoir un avis qui diverge des journalistes.
Vous avez tout à fait le droit de vous interroger.
On a le droit d'avoir un avis qui diverge des éléments de langage du gouvernement.
Le fait qu'on va partager notre siège permanent, c'est faux.
Ce qui est génial, c'est que ça fait maintenant des années qu'on signe des traités. On nous a fait le même coup avec le pacte de Marrakech et on nous explique, journaliste, responsable politique de La République En Marche, que finalement ça ne sert à rien, que ces traités n'engageront la France dans rien. Moi, je crois que la signature de la France, ça a son sens. Voilà. Et je crois que derrière ces traités, il y a cette volonté aujourd'hui de transférer des pans en toujours plus important de notre souveraineté, que ce soit à Berlin, que ce soit à Bruxelles. Or, on est dans une période où aujourd'hui, les Français veulent récupérer le pouvoir. Et nous, dans ces élections européennes, c'est ce qu'on veut faire, prendre le pouvoir et le rendre au peuple français.
Encore un petit mot, celui qui devrait être votre concurrent, c'est pas encore confirmé, votre concurrent LR pour les européennes, François-Xavier Bellamy, a reconnu être opposé à l'IVG. C'est une conviction personnelle que j'assume, dit-il. Vous, quelle est votre conviction sur le sujet ?
La position de notre mouvement, elle a toujours été très claire. Marine Le Pen l'a rappelé plusieurs occasions. Il n'est pas question de revenir sur l'interruption volontaire de grossesse.
Votre conviction
Moi, vous me demandez ma conviction personnelle. Il se trouve qu'elle épouse la position du mouvement. Moi, je ne considère pas aujourd'hui qu'il faille revenir sur l'interruption volontaire de grossesse. Maintenant, voilà, je crois que, si vous voulez... LR s'enferme un petit peu dans le sociétal. Je crois que la priorité, elle est pas là. Je crois qu'aujourd'hui, le sociétal, compte tenu du contexte économique et social, n'est à mon avis pas prioritaire. Il y a d'autres priorités aujourd'hui, je le disais, sur la baisse des impôts, sur le fait d'être respecté dans notre pays. Et c'est ce qu'attendent aujourd'hui
les Français. Merci beaucoup, Jordan Bardella.
Merci à vous. Bonne journée.